Dans ce plateau radiophonique réalisé avec l'Écho des Garrigues et Radio Languedoc, dans le cadre de la convention Ville de Montpellier et ARA, l'Assemblée régionale des radios associatives. Un plateau réalisé depuis le théâtre Jean Villard à La Paillade à Montpellier, qui nous permettra de tout savoir sur la saison 2019-2020 de ce lieu fantastique pour l'accueil et la culture. Au micro, Bruno Cessillon pour Radio Languedoc.
Et Pascal Néry pour l'Écho des Garrigues.
Alors Pascal, on a du monde autour de la table, du monde choisi sur le volet, là, trié sur le volet. Isabelle Marsala, bonjour. À le micro.
Bonjour.
Voilà, adjointe à la culture pour la ville de Montpellier. Présente avec nous pour justement nous amener des précisions sur l'orientation et les choix culturels de la ville de Montpellier par rapport au théâtre et par rapport à la culture.
Mais extrêmement présente sur le théâtre Jean Villard, effectivement.
Voilà. Franz Delplanque, qui est donc le directeur du théâtre Jean Villard.
Bonjour.
Voilà. Ensuite, Pascal, on a avec nous...
Ben, Natiot.
Bonjour.
Et puis Nicolas Pichot, de la compagnie Astrolabe.
C'est ça, bonjour.
Bonjour à tous. Alors, ce qui nous a semblé intéressant pour commencer cette émission, c'est peut-être de revenir un peu sur l'historique du théâtre Jean Villard, qui est finalement une histoire assez récente. Franz Delplanque, il y a 25 ans à peine que commençait l'histoire du théâtre de ce lieu, Maison de la Culture à La Paillade.
Et oui, en fait, c'est un théâtre tout neuf, mais dans un bâtiment qui a une histoire un peu plus ancienne. Puisqu'en fait, le théâtre a été construit dans un chai, voilà, donc le chai de la ferme de La Paillade, et chai qui avait entre-temps aussi une autre fonction non culturelle, mais très intéressante, et aussi de service public, puisqu'il abritait la caserne des pompiers.
Tout à fait, oui.
Voilà.
Donc les Montpelliérains s'en souviennent, les départs de feu se faisaient depuis La Paillade, c'était toute une histoire, un événement, on entendait les sirènes tout d'un coup, on disait « Ah !» Il y a quelqu'un qui s'épasse.
Voilà, et c'est intéressant en fait de parler des territoires parce que finalement le théâtre Jean Villard n'a pas été créé ici par hasard et que on y retrouve un peu toute l'histoire de Montpellier. On est dans les vignes en fait historiquement, même si malheureusement on les voit plus ici. Au lieu de quoi a été construite une ville nouvelle, un quartier nouveau qui est celui de La Paillade, qui s'appelle désormais La Mausson. Et en même temps, ce contact entre la nature et la ville, et la ville nouvelle, avec, on peut le dire, une certaine brutalité architecturale, c'est un des aspects qui nous a le plus inspiré en fait dans notre projet, c'est-à-dire cette notion de lisière entre la ville et la nature. La nature est très présente, c'est sans doute un des plus beaux quartiers de Montpellier qui n'en manque pas, parce que justement il y a ce rapport avec les espaces naturels.
Oui, alors le théâtre Jean Villard, il faut dire que c'est un très beau théâtre, un grand théâtre, 274 places, 374. Oui, et donc pas mal de programmation aussi, beaucoup de programmation.
Oui, alors justement la programmation en fait dans ce lieu qui est le théâtre de la ville, c'est le seul théâtre municipal de Montpellier, c'est donc bien le théâtre de la ville, à La Paillade, en fait va toujours être inspiré par cet aller-retour entre un quartier, son territoire, et en même temps cette vocation à proposer une offre généraliste, éclectique, à tous les Montpelliérains, d'où qu'ils soient, et bien sûr bien au-delà de Montpellier, à la métropole et au territoire d'influence en fait de Montpellier. Donc la programmation, elle va tenir compte de ça, mais pas seulement la programmation, puisque la vocation du théâtre Jean Villard, dès le début, dès sa création en 1994, ça va être d'être à la fois un lieu de diffusion pour tous, mais aussi un lieu de soutien aux artistes. Et c'est un des volets très importants en fait, de notre travail, puisqu'il consiste à essayer de faire en sorte que notre territoire soit un territoire où se créent des œuvres, ce qui le rend attractif, ce qui nous permet de nous ancrer dans un développement et de ne pas être simplement une ville qui va importer des œuvres venues d'ailleurs. C'est donc très, très important, ce travail. La présence des artistes aussi, elle va permettre un travail avec les habitants, et habitants du quartier, habitants de l'ensemble de la ville. Et ça, c'est le troisième volet un peu de notre travail, qui va être le travail avec les Montpelliérains, la démocratisation culturelle, le service public du théâtre, la création partagée, tout ce qu'on peut faire ensemble entre Montpelliérains, artistes ou non-artistes.
Isabelle Marsala, cette présentation du Théâtre Jean Vilar, de son territoire, ça vous convient ?
Et ça me convient tellement que je me demande ce que je peux bien rajouter. Ce qui a été dit là, ce sont les mots principaux, hein, c'est théâtre municipal avec tout ce que ça peut vouloir dire, et c'est le mot ensemble. Voilà, un théâtre municipal va se situer obligatoirement d'une façon un petit peu différente d'un autre théâtre qui a un besoin de rentabilité autre. Nous, on peut travailler ensemble avec à la fois les artistes, la population, le théâtre lui-même. Donc ça permet réellement une souplesse et une grande liberté d'action. Et dans ce théâtre, on le retrouve. L'équipe sait mettre en place cette souplesse et ce travail multicarte. Donc nous, nous sommes particulièrement, avec monsieur le maire et le conseil municipal, ravis de ce théâtre. On le suit de très près. Sur ça, je rigolais tout à l'heure, je disais « je suis de très près ». Oui, je viens quasiment à tous les spectacles et à la petite scène et aux créations et sur tout ce qui s'y passe parce que c'est important.
Ça, voilà. Ça, il faut vraiment le souligner. Effectivement, la présence de nos élus, de notre élu à la culture, quasiment au quotidien, ça fait aussi partie de ce service public qu'on veut faire à la fois avec les Montpelliérains, mais aussi qu'on peut faire avec les élus qui décident à un moment d'une politique culturelle. Donc il y a là une cohérence aussi qui dépasse largement le Théâtre Jean Vilar entre une politique culturelle de soutien aux artistes et de soutien à la diffusion artistique, et en même temps ce travail que nous faisons jour le jour sur le terrain avec les artistes eux-mêmes. Je prendrai un exemple, mais quand on va parler des créations qui se font au Théâtre Jean Vilar, sur une création, si vous amenez des moyens de coproduction, donc à la production d'une pièce, des moyens de résidence, donc la mise à disposition du plateau avec son équipe, qui a évidemment un coût, vous êtes dans une démarche de théâtre. Et en même temps, vous vous rendez compte que la compagnie que vous accueillez, absolument dans tous les cas, enfin je ne crois pas avoir connu d'exception, c'est aussi une compagnie qui va être subventionnée par la ville de Montpellier. Donc ça, je crois que c'est important de le dire, pour ne pas être toujours dans la dimension poétique de notre boulot. Moi, je peux vous parler, et on va le faire, j'imagine, de contenu artistique, mais c'est important aussi que les gens se rendent compte qu'il y a une politique publique qui est en œuvre, et que l'argent public étant l'argent de tout le monde, l'argent public sert à l'intérêt général. En fait, ce travail-là, on peut le faire dans une cohérence avec un projet politique qui est porté à l'échelle d'une collectivité territoriale, et d'ailleurs en partenariat aussi avec d'autres collectivités territoriales, avec d'autres partenaires, d'autres coproducteurs, et les autres théâtres et les autres lieux culturels. C'est vraiment un ensemble qui est cohérent et dont les gens doivent apprécier aussi la dimension, en fait, la dimension très, très positive pour leur territoire.
Alors, différents tarifs. Le tarif plein, c'est 19 euros. Puis après, on a des tarifs réduits, des tarifs super réduits et des tarifs ultra réduits. Donc, l'ultra réduit, c'est 1 euro. C'est pour les minima sociaux.
Oui, alors le tarif à 1 euro pour les minima sociaux, il a été voté, je pense, il y a 4 ans. Il a été voté par le conseil municipal parce que l'idée, c'était que l'argent ne pouvait pas être un obstacle. Alors, il faut se dire aussi que avoir des tarifs réduits ou même la gratuité n'apporte pas toutes les réponses. Il y a un travail d'action culturelle qui est à faire pour que les gens se sentent concernés par l'offre que nous apportons et aussi que nous concevions l'offre autrement que dans une espèce de tour d'ivoire où on imposerait des choix qui sont finalement des choix de passion, certes, mais qui seraient complètement déconnectés du réel. Non, il y a un travail qui est au-delà de la politique tarifaire, d'essayer de faire en sorte que notre offre soit aperçue. Parce qu'il faut savoir quand même que les gens qui fréquentent spontanément le théâtre restent très minoritaires dans tous les milieux. Et c'est aussi vrai, évidemment, par rapport au quartier où nous sommes, par rapport à des publics qui peuvent ne pas se sentir spontanément concernés par cette offre. À partir du moment où vous considérez que c'est une richesse à partager et que ça a de l'intérêt ce que nous présentons, ce qui est évidemment notre cas, nous on est un peu enthousiastes, évidemment il va falloir travailler, se donner les moyens de faire en sorte que les gens puissent venir. Donc la politique tarifaire fait partie du truc. Et Isabelle Marsala a dit quelque chose de très important. Nous ne sommes pas soumis à des obligations de rentabilité. Et le fait d'être un théâtre municipal complètement soutenu par la ville peut permettre à un moment de proposer ce tarif à 1 euro. Imaginez que pour moi, ce soit très très important de rentrer de la billetterie. Je ne proposerai pas un tarif à 1 euro. Je ne pourrais pas, en fait. Je serais l'œil sur le compteur à me demander combien je vais perdre d'argent. Donc on est vraiment dans un travail de service public. Vous savez, le théâtre Jean Vilar ne porte pas ce nom par hasard. Jean Vilar, c'est celui qui a parlé du théâtre comme service public au même titre que l'eau et le gaz. Voilà. Donc nous sommes un service public au même titre aussi, on pourrait dire, qu'un hôpital, etc., une école. Donc nous sommes un endroit qui ne rend pas de compte au monde marchand, qui rend des comptes au monde politique. Et c'est important parce que c'est vrai que souvent on entend beaucoup d'esprit anti-système, etc. Et on est les premiers à présenter des travaux qui vont dans ce sens. C'est normal d'être en révolte contre le système, c'est le signe qu'on est en démocratie. Mais en même temps, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et rappeler que la politique, c'est aussi des politiques, là en l'occurrence des politiques publiques, culturelles, et c'est le travail qu'on fait ici.
Ce tarif à 1 euro, qui est assez surprenant quand même, mais en même temps, vous en avez donné les explications, il fonctionne ? Ça marche ? Il y a des réponses ou c'est la première année qu'il est mis en place ?
Ça fait 4 ans, en fait, qu'il est mis en place.
On vient de le revoter, oui. Parce qu'on a considéré que c'était un outil intéressant, à la fois minima sociaux et à la fois les scolaires aussi, qui peuvent venir en sortie d'école, etc. Donc non, c'est un bon tarif qui fonctionne bien. Mais il faut reconnaître à Jean Villard que c'est pas parce qu'on n'a pas d'obligation financière qu'on ne travaille pas non plus.
Un équilibre financier.
On cherche un bien équilibre. Sûr. Le théâtre est très souvent plein. Les spectacles sont vraiment choisis en fonction des publics et travaillés en fonction des publics qui peuvent se déplacer. Et pour moi, ce théâtre a réussi un challenge qui est vraiment remarquable. C'est un vrai théâtre au sein d'un quartier populaire, mais ce n'est pas uniquement un bâtiment social, c'est réellement un théâtre de qualité avec une programmation artistique efficace.
Alors dans ce théâtre, vous pouvez voir du théâtre, du cirque, de la danse, de la musique, des spectacles pour le jeune public et surtout des spectacles en création. Il y en aura 6 cette saison.
Oui, on a 6 spectacles en création. Grosso modo, la saison, c'est 26 spectacles, c'est pas grosso modo, là, je les ai comptés, pour 59 représentations. Donc, on est sur un volume, une vraie régularité dans la saison. Les pièces de théâtre, à proprement parler, sont en fait 12 pièces sur les 26, mais si on ajoute le jeune public, on pourrait dire, comme il y a 6 pièces de jeune public, dont une seule qui ne soit pas de théâtre, on peut dire qu'il y a vraiment un ADN théâtre qui est assez mis en avant. Et sur cette base, même si on vise l'éclectisme et qu'on a voulu ouvrir aux musiques du monde aussi pour marquer notre attention à la diversité culturelle, cet ADN théâtre nous permet en fait aussi de nous positionner assez clairement en complémentarité d'autres lieux qui par exemple se positionnent sur la danse ou sur le cirque. Vous voyez tout de suite que je pense à Montpellier Danse, au Centre chorégraphique national, au Domaine d'eau sur le cirque. Nous, on se positionne sur le théâtre et il nous semble que du coup, on peut prendre une responsabilité claire vis-à-vis des artistes. Alors, on fait cette année, par exemple, 6 créations. Et ces 6 créations, elles sont choisies. C'est une aventure à chaque fois, puisqu'on ne sait pas ce que ça va donner, par définition. Donc, c'est une aventure qui est importante, puisqu'on va apporter une coproduction, c'est-à-dire de l'argent dans la production. On va avoir la plupart du temps les artistes en résidence, ils vont créer au Théâtre Jean Villard, mais pas que. C'est aussi un travail partenarial, ça veut dire qu'on va trouver, la compagnie va trouver, souvent avec notre aide, d'autres coproducteurs et d'autres lieux pour faire leur travail. Par exemple, si nous, on accueille une compagnie en résidence pendant 2 semaines, il est très vraisemblable qu'elle soit accueillie dans d'autres résidences, sur d'autres plateaux pour finir sa création ici. Et de la même façon, on pourrait, et ça nous arrive de temps en temps, accompagner des compagnies qui créent ailleurs. Donc il y a un travail partenarial. Et ensuite, comme les créations sont faites pour aller ailleurs, pour diffuser, on veille toujours à ce que la compagnie ait des exigences en termes de diffusion, donc à un projet de diffusion, et qu'on puisse l'accompagner. Donc là, c'est toute une histoire de réseau qui passe par des réseaux informels, des coups de fil, etc., mais qui passe aussi par des réseaux, par exemple, comme Collectif Enjeu.
Il faut, pour terminer, parler des stages pour les enfants. C'est important.
Oui, alors on pourrait parler de plein de choses, de la création partagée, mais on en parlera tout à l'heure avec Selma Natiot, qui est notre 10e création partagée.
C'est une multiculturelle ici.
Oui, on travaille beaucoup aussi avec les scolaires.
Du sol au plafond, on trouve tout ce qu'il faut pour la maison, pour les enfants, pour la famille.
Oui, c'est ça. Et donc, pour les enfants de tous âges, hein, de la maternelle jusqu'à l'université, enfin, c'est plus les enfants, l'université. En fait, ce travail, il y a un travail du service éducatif, et dans le service éducatif, il y a un très beau projet qui a vu le jour il y a 3 ans dans une collaboration avec la Maison pour tous Léo Lagrange, puisqu'on est très très voisins de la Maison pour tous Léo Lagrange. On est carrément d'ailleurs dans la même ferme en fait au départ.
Ça fait partie du MAS initial, qui était le MAS de Sylvie Desmarais, Sophie Desmarais.
Sophie Desmarais, l'actrice Sophie Desmarais. Du coup, voilà, on collabore avec la Maison pour tous et on collabore avec Didier Théron, qui est un chorégraphe connu internationalement, qui est tout le temps en tournée d'ailleurs, mais qui, quand il n'est pas en tournée, est vraiment impliqué dans la vie de son quartier. Donc je pense qu'on partage des valeurs fondamentales. Il fait partie de ces artistes très engagés. Hein. Les artistes, en fait, ne demandent qu'à s'engager quand on leur en donne l'occasion. Et Didier est un bon exemple de ça. Et donc, en fait, à trois, on a décidé de faire une sorte d'école non pas de théâtre à la Paillade, mais de théâtre, de danse et de musique. Et donc, il y a un atelier qui s'appelle les Enfants de Tipaza, qui est un atelier permanent destiné aux enfants de la Paillade.
Pour s'inscrire, en même temps, on peut donner l'information. Les parents qui voudraient inscrire leur enfant dans ces ateliers, c'est possible ?
Bien sûr, ils peuvent passer par la Maison pour tous, par le théâtre, par Didier Théron. Adressez-vous à nous, tout simplement.
En consultant aussi le programme qui est proposé, où il y a toutes les informations qu'on peut, qui sont nécessaires pour mieux connaître les opportunités de Théâtre Jean Vilar.
Bien sûr.
Voilà. On va faire une petite pause musicale, hein, Pascal. Justement, on a puisé dans le programme et dans la programmation proposée par ce Théâtre Jean Vilar, qui fait du théâtre, mais aussi d'autres aspects de l'expression artistique. Il y a de la musique et il y a des concerts. On va écouter un des premiers concerts qui va être proposé au mois de novembre. C'est le groupe Delgris. Wissem, envoie la musique.
Ça, vous venez d'écouter Delgrès qui sera en concert donc au Théâtre Jean Vilar le 14 novembre. Bruno.
Eh bien oui, en fait, on a proposé cette illustration musicale, mais justement, hors micro, Isabelle Marcellat, vous nous parliez d'un autre concert qui s'est déroulé la semaine dernière, où vous avez dansé, paraît-il, jusqu'au fin fond de la nuit.
Alors, pas que moi, hein, soyons clairs, je ne me suis pas donné un spectacle.
Hein. En tout cas, ça s'est passé à Jean Vilar.
Samedi soir, il y avait la première soirée de ce qu'on appelle maintenant la petite scène, qu'on a connue sous le nom Le Bar, qui est devenue la petite scène, avec une programmation organisée par Musique Sans Frontières, Fetit Abbé, un groupe du Sénégal qui a dansé visiblement jusqu'à très 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 tard la nuit. Effectivement, une ambiance super agréable, tout le monde a dansé, c'était sympathique, c'était vraiment chaleureux, avec beaucoup d'habitants du quartier et beaucoup de personnes parce que la salle était pleine.
Oui.
Alors, France Delplanque, la petite scène, c'est un lieu particulier dans le Théâtre Jean Vilar ?
Oui, effectivement, ça fait partie du projet d'ouverture sur le quartier et aussi sur l'ensemble d'ouverture à l'ensemble des Montpelliérains, puisqu'en fait ce lieu qui, vous savez, la grande scène du théâtre, elle a la particularité de se programmer très longtemps à l'avance. Ce serait assez compliqué de fonctionner différemment. Et c'est pas le rythme en fait du travail avec les associations, c'est pas le rythme non plus du travail de la musique, par exemple. Donc on s'est dit que c'était bien d'ouvrir un lieu qui soit une sorte de passage, de passerelle éventuellement vers les activités du théâtre, et de le mettre sous plusieurs angles. D'abord, la diversité culturelle à tout prix, c'est-à-dire vraiment un lieu où on puisse voir tout ce qui peut se réaliser aujourd'hui dans la France du 21e siècle. On voit bien que ça bouge, qu'effectivement on a un apport très fort culturel dû aux migrations. On a aussi donné plus d'importance aux cultures minorisées, je pense à la culture occitane. Voilà, donc être une scène de cette diversité, être en même temps une scène où il soit assez facile d'accéder en tant qu'artiste émergent, amateur, et donc on fait aussi beaucoup appel à des rencontres avec les amateurs. D'ailleurs, j'invite les gens à se rapprocher de nous quand ils ont un talent et qu'ils ne savent pas où le montrer.
La soirées... porte est ouverte à la petite scène.
Les soirées échangées découvertes avec Musique Sans Frontières, c'est vraiment un endroit où on peut montrer son talent, qu'on soit magicien, poète, musicien, etc. On a vu que ça marchait très bien. Et puis, c'est aussi un endroit en fait, qui est peut-être moins crispant pour une partie de la population, qui peut considérer qu'aller s'enfermer pendant 2 heures dans une salle de théâtre, c'est compliqué. Alors que là, ben, en fait, le fonctionnement, c'est le fonctionnement du bar. Vous rentrez, vous ressortez quand vous voulez. Sauf qu'en l'appelant le bar, on l'a peut-être orienté vers une image qui n'était pas si simple que ça. Et surtout, on a pu donner l'impression que ce n'était pas le même projet que le reste du théâtre Jean Villard. Donc on l'a d'urgence rappelé la petite scène. Et la petite scène, ça parle aussi très très bien. Et la petite scène, c'est simplement un endroit de rencontre, d'échange, ouvert sur le monde, ouvert sur le quartier, en toute simplicité, et où chacun peut venir de manière extrêmement simple.
C'est famille, nous dit Isabelle Marcella. Nicolas Pichot et Natiot, vous êtes déjà venus à la petite scène? Vous avez participé un peu à ces découvertes et à ce lieu comme ça où on apprend, où on rencontre, et où on danse, où on parle et on rit et on pleure?
Eh bien, pas vraiment, sauf que j'y ai joué quand même, parce que je suis aussi poète et j'ai un duo d'électro-poésie qui a été programmé l'année dernière, donc pour 2 soirées ici. Et où Franz et Isabelle ont dansé, hein, effectivement.
Ils ont dansé sur la poésie, c'est
oui,
extraordinaire.
Oui, la poésie électro, avec de l'électro. Donc,
ça groovait pas mal hein, comme poésie, voilà. C'était difficile de résister.
Alors vous, Natiot, puisqu'on vous tient, vous êtes dans l'hébreu, dans la musique, dans l'art, dans l'architecture, dans le chant, dans la perf, et vous êtes auteur.
Tout à fait.
C'est l'art total.
Tout ça, oui, l'art total. L'architecture, c'était les études, donc c'est un peu passé, même si je m'intéresse beaucoup à l'architecture, voilà.
Ça reste toujours ce qu'on a appris à un moment donné.
Tout à fait, tout à fait. Hein, c'était par passion, donc voilà, finalement, la vie m'a amené autre part, mais l'architecture reste quand même. En tout cas, je ne suis pas architecte, je ne suis pas... voilà.
Et donc voilà,
je suis tout ça, sinon le reste, et surtout auteur, hein, le centre de mes activités, c'est l'écriture avant tout, et après ce sont des formes de mon écriture que je présente sous forme de spectacle, performance, lecture classique, voilà.
Vous êtes aussi un écrivain de littérature érotique, hein.
J'ai été.
Ouais.
J'ai été. C'est quelque chose qui m'a vite collé une étiquette, on va dire, parce que voilà, je ne sais pas pourquoi. À partir du moment où on écrit sur l'érotisme, une femme peut-être aussi. Même 10 ans après, hein, c'était mon premier recueil. Il y a encore des gens qui disent ah mais tu es la poétesse érotique. Ah ben non, ça fait 10 ans que j'en fais plus. Voilà, c'est quelque chose qui est resté. Ça m'a un petit peu dérangée en fait, et ça me dérange encore d'en parler. Pas que je renie ce recueil-là et les spectacles que j'ai fait autour de ça, mais c'est vrai que ça marque en fait une carrière. Je m'intéresse bien à bien d'autres choses que ceci.
Mais Natiot, parce que c'est resté dans la mémoire, parce que c'est resté dans la mémoire comme de très beaux textes aussi. Donc ça, c'est on peut pas. Voilà, il y a aussi un aspect positif à cette mémoire.
Oui, non, mais Isabelle, veux-tu dire quelque chose?
Oui, parce que je comprends que ça soit marquant et que ça puisse être dérangeant, mais le fait est qu'il y avait un positionnement de femmes écrivains, poétesses à cette époque, quand tu donnais ces textes en public, qui ont marqué réellement une époque. Moi, je l'ai vu il y a longtemps, hein, à l'atelier du garage, aux Beaux-Arts à l'époque, etc. C'est quelque chose qui scotchait absolument les gens, de l'attitude théâtralisée, la mise en scène de cette histoire qui en fait devenait quelque chose de très clair, de très sain, de très net. Et ça, je crois que ça a marqué les esprits. C'est pas l'érotisme en soi, je crois, qui reste en souvenir. C'est ce positionnement tellement clair et tellement posé. Je crois que ça a sidéré des gens et ça t'a placé dans une scène dans laquelle tu es toujours reconnu comme artiste sans aucun doute.
Oui,
parce que Natiot, si on fait le tour de votre travail, donc beaucoup de poésie, beaucoup de parutions, un roman aussi, peut-être plusieurs romans.
Un roman qui est sorti l'année dernière, tout à fait, qui s'appelle Le Nord du Monde. Oui, voilà. Mais avant, 10 ans de publication en poésie essentiellement. Oui.
Isabelle Marsala lève le pouce pour dire ouais, super.
Non, c'est, je montrais le Nord.
Ah bon.
c'est un très bon roman, oui, lisez-le. Bien sûr, lisez-le.
Bon, bah, on parle de Bouchra.
Voilà, qu'on continue.
Oui, juste du coup, redire aussi pourquoi le choix de Natiote et peut-être partir de l'histoire de cette création partagée. La création partagée, c'est l'idée en fait que des habitants et non pas des amateurs, même si du coup ça en fait des amateurs, vont pouvoir pratiquer avec un artiste. Et en fait, derrière cette idée, il y a l'idée que la rencontre entre l'artiste et l'habitant va produire quelque chose qui a une forte portée symbolique. Donc, on a fait plusieurs créations partagées, on est la dixième, et il se trouve qu'une participante de la première et de la deuxième création partagée, qui avait été faite respectivement avec Mathias Beller et Saïda Mesgeldi, qui s'appelle Bouchra, est venue nous voir. Il y a, en fait, c'est l'an de monter les projets, puisque ça doit être il y a peut-être 2 ans, dans ces environs-là. Elle est venue nous voir, Maglone Nastruc, qui s'occupe de l'action culturelle chez nous, et qui est donc la personne qui mobilise les habitants, et moi-même, elle est venue nous voir tous les deux en disant « Je voudrais écrire sur mon histoire de femme de ménage et celle de mes copines femmes de ménage, mais je ne sais pas écrire ». Donc on a traduit ça comme une volonté que ce soit quand même quelque chose dont elle soit l'autrice, en fait. Mais voilà, c'était « Je voulais écrire », c'est pas « Je veux qu'on écrive sur ». Donc il fallait trouver, évidemment, du coup, l'auteur ou l'autrice qui serait capable de réellement porter ce défi-là. Et on a pensé, aussi bien Maglone que moi, on a pensé à Natiote pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on aime énormément son travail, qui effectivement ne peut pas se réduire à une thématique plutôt qu'à une autre, bien que même dans les poèmes récents, même dans ce que tu as mis en musique avec ton duo, il y a toujours cette dimension de la liberté, en tout cas, de dire le corps des femmes, l'interpellation érotique, elle est là quand même, elle est toujours là. Et puis la deuxième, donc d'abord parce qu'on travaille qu'avec des artistes dont on pense que ce sont des très bons artistes, j'allais dire des grands artistes, ouais, pourquoi pas, les limites. Et la deuxième, parce que Natiote était elle-même engagée, avait fait ses preuves en travaillant avec un groupe de femmes, elle pourra nous en parler mieux que moi, avec un groupe de femmes, et du coup, on savait qu'elle avait cette générosité, cette aptitude à la rencontre, à vraiment écouter et à vraiment aussi utiliser son langage artistique au profit de ce genre d'aventure. Du coup, voilà pourquoi on a proposé de répondre à Bouchra en disant « On va te faire rencontrer quelqu'un qui va écrire ». Et c'est comme ça qu'est né Bonjour, mais je pense que là, c'est Natiote qui en parlera le mieux.
Oui, vous avez la parole.
Oui, ben, tout à fait. Donc, c'est effectivement Maglone qui était venu voir une lecture d'après un texte qui s'appelle Hot Dog, que j'ai écrit après une observation, une résidence d'observation, on va dire, dans un centre d'accueil pour femmes. Et donc, j'ai restitué avec 3 femmes SDF. Donc, j'avais été, mais là, à mon initiative, hein, parce que j'avais envie d'écrire sur la précarité, parce qu'il y avait un centre d'accueil à côté de chez moi, et que je me demandais toujours ce qui se passait dans ces centres d'accueil, qu'est-ce que ces femmes venaient y faire. Donc,
mais
voilà.
Vous n'êtes pas la seule à se poser des questions. On passe en voiture, on passe à pied devant ces centres-là.
Voilà, on fait parfois un peu des détours même, parce que voilà, il peut y avoir... Donc j'ai poussé la porte et je suis rentrée, j'ai demandé à la directrice, elle pouvait m'accueillir à tout ça. Bon, donc... Tout ça pour dire, c'est pas le projet qui nous intéresse, que j'ai déjà été récolter, on va dire, une parole. En tout cas, là, c'était plus en observation. Je demandais pas qu'elle me parle. Le projet Bonjour, donc pour le théâtre Jean Villard, ce sont donc une femme et d'autres femmes que j'ai rencontrées qui sont venues me parler parce qu'elles avaient envie, parce qu'elles étaient à l'initiative de ce projet quand même, donc de raconter leur vie de femme de ménage avec des thématiques. Bon, la grande thématique, si ça s'appelle Bonjour, c'est qu'effectivement, ce sont des femmes à qui on ne répond pas bonjour quand elles disent bonjour, très souvent, qui sont dans l'invisibilité, on va dire, de par bah, leur métier. Alors bon, c'est
leur
vrai
statut,
leur statut,
hein.
Pourquoi disparaissent-elles de l'espace visuel qui a engendré, voilà, engendré par ce métier là c'est assez étrange. Donc ça a été une des thématiques. Il y a la thématique de la langue, puisque certaines ont fait des études au Maroc, elles sont bac plus 4 ou des choses comme ça, mais elles sont femmes de ménage parce qu'elles ne parlent pas bien le français. Donc elles ont beau aller à Pôle emploi, on leur dit que tant qu'elles ne savent pas parler français, ben, on leur donne, voilà, elles n'ont qu'à faire femmes de ménage. Enfin, il y a une tonne de thématiques. Voilà. Donc j'ai récolté, j'ai beaucoup parlé avec elles, je suis allée dans un un cours d'alphabétisation aussi, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes pour se elle travaille, hein, donc se rencontrer, se retrouver. Bon, voilà, j'ai ramassé autour de moi, eu individuellement parfois, en groupe, juste à écouter ce qu'elles se disent, etc. Bon. Et l'idée, vous avez des questions, hein, monsieur Pascal?
Non, je vais juste placer mon 60 heures de travail d'atelier. C'est des ateliers qui se déroulaient toujours de la même façon ou c'était adapté ou 60 heures d'atelier.
Ah non, c'est... oui, je sais pas, vous avez vu ces 60 heures, mais on est à beaucoup plus. Enfin, je sais pas, je ne compte plus mon temps avec ce projet. Ce projet, je l'ai complètement investi et puis je fais tout pour qu'il aboutisse. Donc je les ai vus quand je pouvais les voir. Maintenant, on répète un peu la mise en voie, mise en espace. Donc j'ai réussi à avoir un créneau avec elle. Et il faut qu'on s'y tienne et qu'on arrive à réaliser vraiment au mieux ce projet. Et donc c'était voilà. À des endroits divers et variés, les maisons pour tous, ici en bas au bar dès qu'elles pouvaient venir. Enfin, j'ai trouvé des lieux pour de rencontres en fait et de partage. Et effectivement, après donc l'important, je pense, puisque le texte a été finalement écrit, je l'ai présenté à France et Maguelon, c'est que je ne voulais pas être au service non plus. Mon inquiétude était là-dedans quand même. Je voulais aussi me retrouver. On essaye tous d'exister. Je dis dans le texte, chacun à son endroit. Donc il a fallu que ce témoignage soit quand même dans ma propre langue poétique. Donc c'est ce travail-là, ce n'est pas juste un théâtre documentaire avec un récoltage de paroles que j'aurais mis directement. Question.
Oui, savoir comment elles ont investi justement cette parole qui était à la fois la leur et en même temps une parole transformée, transposée peut-être.
Ben, elles sont en train de l'investir justement. Donc une première fois, je leur ai lu le texte. J'avais très peur effectivement de la forme, de ce que j'ai inventé autour d'elles, de ce que j'ai pu capter de leurs problématiques. Et elles ont été évidemment très touchées avec des larmes. Elles ont trouvé ça très beau et elles ont été complètement vraiment enjouées, subjuguées, je sais pas, en tout cas elles ont été touchées, très touchées de cette transformation de leurs paroles, je pense, mais dans un état plus poétique que quelque chose d'une situation subie, un peu figée, voilà, l'amener ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de faire.
C'était un peu le pari aussi de cette création littéraire et de toute création littéraire, c'est-à-dire qu'en fait c'est la surprise du texte qui fait que vous savez, surtout là c'était une étape le texte, mais c'était pas fini puisqu'il y a tout ce travail après pour que le texte soit aussi mis en scène et porté par ces personnes. Mais le texte est formidable. Moi quand j'ai lu le texte, j'étais très ému parce qu'en réalité, quand vous demandez à un auteur ou une auteure d'écrire dans ce contexte, vous avez qu'une peur, c'est de perdre sa parole poétique. C'est-à-dire qu'en fait, ça soit une prise de notes et que finalement, le texte ressemble tellement, soit tellement fidèle à ce qui a été dit qu'on n'entende plus la petite voix, la petite musique de l'auteur. Et c'est pour cette musique qu'on s'est tourné vers l'auteur. C'est pas pour, sinon on prendrait n'importe qui pour rendre compte. Et ça a été très très réussi, particulièrement bien réussi par Natiote, parce qu'on entend complètement sa poésie et on entend complètement l'histoire de ces femmes.
Et alors Natiote, techniquement, comment vous avez engrangé les informations? Vous avez fait des enregistrements, pris des notes sur du papier?
Pris des notes sur du papier, surtout. J'ai commencé à enregistrer, puis rentrer chez moi, réécouter tout ça pour refaire le travail de... Voilà, je préférais en fait qu'elle parle. Et moi, je notais seulement certaines phrases qui, dans mon oreille... sonnait déjà comme étant quelque chose de poétique. Donc je prenais que ce qui m'intéressait de ce qu'elles étaient en train de raconter. C'est avec ça que j'ai fabriqué mon texte, ou les thématiques, mais les thématiques, de toute façon, je les ai assez rapidement vues. Mais voilà, c'est pour ça que leur langue existe quand même à l'intérieur, mais c'est ce que je fais aussi dans la poésie, souvent en écoutant autour de moi, et c'est une phrase qui sonne un petit peu bizarre ou que peut dire un enfant, que peut dire quelqu'un aussi qui parle assez mal. C'est pour ça aussi, ce qui est intéressant, c'est comme elle parle assez mal le français, des fois il y a des tournures de phrases qui sont magnifiques et déjà poétiques en elles-mêmes. Donc c'est toutes ces choses-là que j'ai récupérées, voilà, et avec des notes. Oui.
Isabelle Marsala, cette expérience, elle est fantastique, pratiquement exemplaire par rapport à une politique socioculturelle.
Mais bien sûr, oui, oui, c'est tout à fait intéressant et c'est tout à fait dans la ligne droite de ce qui se travaille à Jean Villard. Moi, après la création, je l'ai pas vu. Après, j'ai confiance. Et après, j'ai vu le visuel. Rien que le visuel, magnifique. J'ai hâte qu'on soit en novembre. Parce que je me dis que partant comme ça, il n'y a pas de fausse note. Non, mais j'ai extrêmement confiance. Je pense que quand on travaille de façon cohérente avec les gens qui sont bien à leur place, qui sont là où ils doivent être, dans toutes les équipes, qu'on fait appel à quelqu'un de qualité au niveau du travail, ben on a un travail de qualité en restitution. C'est ce qu'on aura en novembre. Donc moi, oui, j'ai hâte de voir réellement. Mais c'est un travail qui me semble dans une cohérence complète par rapport au travail suivi à Jean Villard, principalement par Magdalena Struc sur son lien avec la population de ce quartier. On a tout bon là, hein. Et ça va être formidable.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que justement on arrive à réconcilier des publics, des cultures.
Non, mais on n'était pas fâchés, c'est une erreur, on n'était pas fâchés. Personne n'est fâché avec personne. Après, il faut, vous savez, l'opportunité et l'instant qui convient pour se rencontrer. Et ici, ça permet des rencontres à des temps différents, autant au niveau de l'âge qu'au niveau du temps de la journée, du lieu, avec la petite scène, la grande scène, etc. Et ces temps, s'ils sont bien respectés, le public est là, parce que cette rencontre, on en est friand des deux côtés. J'en suis persuadée.
Exactement.
Ce que je pourrais juste rajouter, c'est oui. que l'intérêt que moi j'y trouve, à part d'écrire quelque chose avec, c'est de rencontrer des femmes que je n'aurais jamais rencontrées dans la vie. Et ça, pour moi, c'est très important. Ces femmes sont presque devenues mes copines, on va dire. J'espère que je les retrouverai, que quand elles viendront voir des spectacles, on se serrera dans les bras, etc. Parce qu'on a fait quelque chose ensemble, quelque chose qui est pas très facile, surtout la restitution. Là, j'en bave un peu plus que l'écriture, à vrai dire, parce qu'elles ne savent pas lire. Donc, moi, une lecture, ben, je pensais qu'on allait lire. C'est compliqué, donc elles apprennent.
On revient
pas
à la
tout,
tradition orale. Hein.
Voilà, donc c'est un peu. Et puis elles font beaucoup de fautes aussi de langue, donc je dois un peu aussi me détacher de mon propre texte initial pour pouvoir. Enfin voilà, c'est des allers-retours entre ce qu'elles m'ont dit, ce que j'ai écrit, et on revient vers leur langage à elles. Enfin, on fait des. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que vraiment, j'aime beaucoup ces projets. Parce que j'aime rencontrer des gens qui ne sont pas de mon milieu, que je ne rencontrerai pas, ni social, ni voilà. Et donc, bravo Jean Villard pour ses créations partagées. J'espère que tous les artistes qui font ces créations ont le même sentiment que moi, ah, oui. D'aller vers, quoi.
Oui, c'est vrai que si on prend par exemple la dernière qui était Amphitryon, c'est une expérience humaine inégalable. Hein. Et effectivement, je te confirme que tu resteras avec tes copines dans une fidélité de relation. Et ça risque de se passer souvent au théâtre Jean Villard, puisqu'elles sont aussi fidèles au théâtre Jean Villard.
Alors Natiote, bonheur, ce sera joué le mardi 19 novembre à 20h ici.
Bonjour.
Bonjour, j'ai dit quoi ?
Bonheur. Mais c'est le bonheur, on est d'accord, c'est un bon lapsus.
Pas mal. Et du coup, donc le mardi 19 novembre ici à 20h, puis ensuite le mercredi 20 novembre à 19h à la médiathèque Jules Verne. Ensuite, ce sera le samedi 7 décembre à 17h30 au centre social CAF. Et puis le vendredi 13 décembre à 19h à la maison de proximité du Mas du Rocher à Castelnau. Et puis ensuite encore deux dates, dont une à la Bulle Bleue.
On n'a pas encore défini la date en avril dans un événement, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, elles sont très intéressées, mais d'autres dates aussi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui me le demandent, ce spectacle, en dehors de cette production. Voilà.
Toujours dans la programmation de Théâtre Jean Villard de cette saison 2019-2020, il y a aussi de la musique, on en a entendu tout à l'heure, on en réécoute encore un petit peu, Wissem.
جبال الجار في ضام البحر المر لا منطقني في وداد العالم لا منطقني في وداد العالم لا 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 محبتي هذا تمم الغنى غنى والكلام الحل يا مشليك اسكميني في رقصة شليني خارج الباب الباب جبال الجلد في ضم ببحر الملح لا من ضيقوني في وداد العالم لا من ضيقوني في وداد العالم لا 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 اسكميني في رقصة اسكميني خارج الباب اسكميني في رقصة
Alors ça c'est Yemen Blues hein, qui sera donc en concert à la petite salle au théâtre Jean Villard. Petite salle ou grande salle hein?
Grande salle. Hein.
Grande salle.
Ah, oui.
Donc le 12 mars, hein, voilà, à 20h, toujours les concerts. Bon, ben Bruno.
Eh bien on continue ce plateau radio en direct, donc depuis en direct, peut-être en rediffusion pour certains, depuis le théâtre Jean Villard, avec donc Franz Delplanck qui est le directeur. On parlait de justement de production, de programmes et des créations en pagaille. Il y en a une qui est en train de se dérouler, nous on est là à la mi-octobre, mais il y aura aussi d'autres choses. Alors un petit peu d'informations sur tout ça.
Oui, simplement sans évoquer les six créations, dire que la prochaine s'appelle « La religion du capital ». Et qu'elle est très prometteuse parce que, comme son nom l'indique, elle nous parle en fait de cette religion de l'argent, en fait. Qui, sauf que, en l'occurrence, c'est une pièce du tout début du XXe siècle qui montre bien l'actualité et à la fois la dimension historique de ce rapport au capitalisme. C'est Luc Sabot de la Compagnie Nocturne qui nous propose cette pièce qui va être très rock et, à mon avis, très amusante.
Alors écrite par Paul Lafargue, qui était le gendre de Marx.
Oui, c'était le gendre de Marx et le travail de la Compagnie Nocturne et de Luc Sabot, c'est assez souvent d'essayer de nous décrypter des dimensions en fait qu'on n'a pas forcément compris du premier coup dans le monde et dans l'œuvre de Marx en particulier, puisqu'il avait donné une pièce qui s'appelle Marx Matériaux avec Jacques Allaire, dans laquelle, contre toute attente, on était initié très rapidement au capital. Rien que ça, qui est quand même pas un texte très, très facile d'abord. Et il continue en fait sur cette espèce de vocation qu'il a à rendre théâtrale des choses qui n'ont pas l'air de l'être, mais qui sont extrêmement importantes pour la compréhension qu'on peut avoir des choses de ce monde.
Alors il écrit « Un spectacle n'enseigne pas un savoir, un spectacle ne fait pas la révolution, un spectacle ne réduit pas les injustices, un spectacle ne cicatrise pas les plaies, un spectacle s'empare des connaissances, des colères, des ressentiments ou des blessures pour les mettre en lumière, en scène, en jeu. »
Et voilà, on ne peut pas dire mieux.
Un spectacle donc qui sera proposé début novembre, le 6 et le 7 novembre, au Théâtre Jean Villard, à la Paillade de Montpellier.
Voilà.
D'autres créations. Alors avec nous, on lui a pas beaucoup laissé la parole jusqu'à maintenant. Nicolas
Pichot.
Pichot, voilà.
Je t'aide.
Voilà. Dis-moi donc une création en préparation justement qui sera présentée au Théâtre Jean Villard sur le schéma politique, sur le schéma culturel, sur
eh bien,
quelles sont les pistes que vous avez
abordées. Les pistes de Perplexe. Donc là, c'est une pièce. Alors pour faire un petit rapide. Historique. Moi, c'est un théâtre dans lequel j'ai joué dès mon arrivée à Montpellier en 2001. Donc, c'est vrai qu'il y a une connaissance, donc avec la précédente compagnie et puis un certain compagnonnage aussi, on pourrait dire, avec le théâtre Jean Villard, puisque le précédent spectacle, Débrayage, avait été créé ici. Et il y a quelques années, j'ai découvert cette pièce de Marius von Mayenburg, un jeune auteur allemand. Je dis jeune encore parce qu'il a mon âge. On est de la même génération. Et j'avais travaillé ça avec des élèves au conservatoire où j'étais intervenant. Et puis en discutant avec Franz, que Franz avait vu ce projet, on s'est dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec cette pièce, avec des professionnels. C'est une pièce déjà d'acteur. Moi, je suis comédien avant tout. Et puis depuis quelques années, je me suis un peu tourné vers la mise en scène. Et j'avais envie de monter une pièce pour mes acteurs. L'Astrolabe, c'est une troupe. C'est une troupe d'acteurs, de techniciens, mais où on mélange un petit peu nos arts, nos disciplines. Et après débrayage, j'avais envie d'offrir ce texte à mes acteurs avec lesquels je travaille. En fait, pour tout dire, je voulais la jouer moi, en fait, et je trouvais personne pour me diriger dedans, et donc j'ai décidé de la mettre en scène. Alors, de quoi ça parle ? Perplexe. Cette pièce de Meyenburg, c'est vraiment tiré du, ce sera un peu du théâtre de l'absurde, mais des années 2010. Ionesco, dans les années 50. Invente le théâtre de l'absurde après la Seconde Guerre mondiale, où son objectif un petit peu c'est de faire réagir le public en mettant en scène des événements absurdes de leur vie, en déconstruisant le théâtre. Et bah, Meyenburg fait un petit peu ça, mais avec une pièce contemporaine. Il fait même une déconstruction un petit peu. Il s'amuse avec les codes du théâtre et il va décider de les déconstruire. Pour vous dire, le début de la pièce, c'est, on pourrait se croire presque dans une pièce de boulevard. Il y a tous les codes qui s'y retrouvent, les quiproquos, les travestissements, les histoires de couple. Mais sous cette, on vous dirait que c'est un peu une fausse, comment je pourrais dire, superficialité de la forme. Il y a une vraie profondeur du propos dans cette pièce.
Alors tout se montre, hein, scène, coulisses.
Pardon ?
Tout se montre pendant la pièce. Hein.
Eh bien, en fait, alors ça, c'est révéler quelque chose au public quand même.
Hein. Ah, c'était dans le dossier de presse.
Oui, 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 oui. Alors,
c'est marqué, c'est écrit.
C'est vrai que, voilà, non, l'idée quand même, c'est de partir sur Meyenburg. En fait, on va avoir un décor de théâtre dans lequel les acteurs vont se mouvoir. Et constamment, pendant toute la pièce, on va faire des croche-pieds au spectateur. On va essayer de le surprendre. Et donc, à un moment donné, oui, de voir les coulisses, parce qu'en fait, moi, je vois dans cette pièce une sorte de métaphore de la vie. Et où est la réalité ? Où est la fiction ? Qu'est-ce qui est la vérité, ça parle de ça en fait, la pièce. C'est même un peu une sorte de perplexité face à la condition humaine. C'est une pièce qui est profondément métaphysique, et plus je la lis, plus elle m'angoisse. Mais toujours par le rire en fait. Et c'est ça qui est formidable chez Meyenburg, c'est qu'en fait on va rire de notre condition, et on va rire ou sourire de l'état du monde qui peut nous rendre à des moments perplexes.
Oui, elle est hilarante, cette pièce. Hein. Faut quand même le préciser. C'est vraiment une pièce hilarante.
Ouais, tout donne l'impression d'être de l'improvisation. En fait, ça n'en est pas du tout.
C'est ça. En fait, on est constamment en train de... On part sur une scène. On a quatre personnages, deux couples. L'un arrive chez l'autre. Et puis, on se retrouve... ils vont prendre un café. Et la situation que l'on pensait être la bonne situation n'est pas du tout celle-ci. C'est-à-dire qu'on pensait être chez les gens qui recevaient leurs amis. En fait, on est chez les autres. Mais les acteurs ne le savent pas eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça que moi, je vais faire jouer à mes acteurs.
Les quiproquos, alors.
Ce sont des quiproquos, ouais. Exactement. Et
c'est un des moteurs du rire et du comique.
Exactement. Et sauf que les personnages eux-mêmes ne sont pas au courant de qu'ils ne sont pas chez eux. Ils pensaient être chez eux, et puis en fait ils ne sont pas chez eux. Et donc c'est ce qui va rendre le spectacle. Et petit à petit, comme ça, on va voir. On pensait que c'était la babysitter de l'enfant à un moment donné, et puis en fait c'est sa mère. Les autres personnages ne le savaient pas. Et voilà, on passe de surprise en surprise avec ce texte complètement, comme tu disais, drôle
Hilarant.
Hilarant, ouais, je pense. Enfin, on va voir. C'est une comédie grinçante quand même. Oui. Moi, je dirais. Hein,
Nicolas Pichot, au départ, l'idée donc de monter ce spectacle, de le jouer. Finalement, il y a plein de comédiens. C'est pas un spectacle que vous alliez jouer tout seul. Vous l'avez envisagé comme de le jouer, d'être comédien et de jouer tous les personnages ou
non,
pas
non, non,
quand
non.
Même pas.
Non, non, non. Moi, j'avais la vue sur un personnage et puis je l'ai donné à un de mes acteurs.
Quel était ce personnage ?
Il s'appelle Robert et je crois même que dans la pièce, en fait, il s'appellera Marc, comme Marc Pastor. C'est lui qui jouera ce rôle. Meyenburg, il a écrit la pièce pour ses acteurs préférés et il leur a donné leur nom. Leur prénom. Et je crois qu'on va faire la même chose, parce qu'il nous le permet. Et donc, sur scène, les quatre personnages, ce seront Marc, Evelyne, Thomas et Anne-Sophie, qui sont les noms des acteurs. Et où on est donc justement dans mais sommes-nous au théâtre ou sommes-nous dans la réalité ? Quelle identité avons-nous ? Voilà, en quelque sorte, un petit peu le propos.
France Delplanque, l'accompagnement comme ça d'une compagnie, d'une création, comment ça se passe pour vous, Théâtre Jean Vidard ?
C'est un kiff. Non, c'est super. Enfin, moi, je trouve extrêmement intéressant, finalement, qu'on ait ce niveau de dialogue aussi avec une compagnie qui fait que presque, on n'a pas choisi le texte ensemble. C'est simplement un texte que j'ai vu, effectivement, dans leurs mains avec des élèves. Et j'ai eu une envie absolument énorme de revoir un jour ce texte joué par la même compagnie. On en a discuté. Finalement, ça se fait. Ça se fait longtemps après, mais ça se fait. Il faut insister sur le fait que, à la fois, la compagnie, moi, j'adore cette compagnie parce que c'est une compagnie qui continue à faire avec beaucoup d'exigences intellectuelles, artistiques, des exigences de sens, un théâtre complètement accessible. Et qu'il s'attaque à une pièce contemporaine ou qu'il s'attaque à Monsieur de Pourceaugnac de Molière, il y a une puissance comique parce qu'en fait, finalement, ça nous parle de situations que nous connaissons. Et là, dans la pièce de Meyenburg, on pourrait parler de mécanique de précision, sauf que ça n'est pas mécanique, c'est du déjanté de précision. Et du coup, moi, je crois que là, on va avoir une expérience extraordinaire. Alors, si on veut parler de... Mais ça, c'est peut-être un peu rébarbatif. Si on veut parler du travail que ça suppose, il y a le travail de production et nous, on a un travail d'accompagnement. Donc, on va essayer d'accompagner cette pièce. Et je peux vous dire que j'ai pas fini de casser les pieds de mes collègues de France et de Navarre sur l'idée qu'ils doivent venir voir cette pièce. Et s'ils l'ont pas vu, qu'ils doivent la voir ailleurs. Et s'ils l'ont pas vu ailleurs. Et s'ils l'ont vu, qu'ils doivent la programmer. Mais ça, la réussite du spectacle parlera d'elle-même.
Donc, voilà. C'est important d'avoir comme ça des gens qui parlent pour les comédiens, qui parlent pour les équipes et qui promeuvent leur travail. Parce que des fois, on est mangé par le travail artistique, le travail de plateau, et on n'a pas toujours la possibilité de développer ou de rencontrer les gens. Et justement, je pense que ce qui est intéressant, c'est que Jean Vidard, finalement, sert de relais, sert de haut-parleur.
Mais un peu, modestement, parce qu'en fait, c'est très compliqué. Et d'une part, c'est très compliqué, il ne faut pas se voiler la face, c'est extrêmement compliqué pour une compagnie de se vendre, c'est extrêmement compliqué pour nous aussi. On a un autre endroit que les compagnies pour convaincre les professionnels de s'intéresser à leur travail. Donc on joue cette carte, mais voilà, c'est un travail compliqué. Il y a des réseaux qui fonctionnent bien comme Collectif Enjeu, Réseau en Scène. Il y a l'ONDA au niveau du ministère de la Culture. On va défendre partout où on peut, on va défendre ce projet. Mais en réalité, ça reste très aléatoire. Par contre, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en face, on a des compagnies qui sont sérieuses, qui sont professionnelles. Vous pensez qu'elles font un travail purement artistique, mais en réalité, les compagnies avec lesquelles nous travaillons, et la tienne ne fait pas exception, sont des compagnies très organisées, derrière lesquelles il y a des chargés de diffusion, derrière lesquelles il y a des administrateurs quand elles en ont les moyens. Le plus souvent, c'est le metteur en scène lui-même, voire les comédiens qui défendent leur propre production. Mais il y a un travail qui est très très fort réalisé par les compagnies pour arriver à professionnaliser leurs pratiques et à diffuser. Et en France, on souffre d'un handicap terrible qui, à mon avis, ne vient ni des théâtres, ni des compagnies, mais de la façon dont tout ça se structure ou pas, qui est que la diffusion en fait, des créations reste très très faible. On parle d'une moyenne nationale de 7 représentations, en moyenne, sur les créations qui sont faites la première année, en tout cas, de leur exploitation. C'est très faible. Et on est tous très conscients de ça, et je pense qu'on y travaille tous. Et bon, là où j'ai vraiment confiance sur Perplex, c'est que je pense que nous allons faire un carton.
Alors, Perplex, vous le travaillez en résidence de création. Vous avez déjà commencé ou vous commencez au Domendo le 25 ?
Vous êtes bien renseigné. En effet, on va vraiment commencer le 25 au domaine d'eau, au théâtre d'eau, pardon, au théâtre, oui, 16 novembre au théâtre d'eau. Non, on a fait des résidences de travail deux semaines au printemps. On a toujours besoin de prendre bien en amont les choses pour faire les choix scénographiques pour faire les choix de scénographie. Et puis on a commencé aussi à travailler avec les acteurs sur le texte et sur justement quel est cet endroit de folie qu'il faut que nous trouvions. Parce que même si j'ai choisi les acteurs qui me semblent être les bons pour ces rôles-là, il y a être sur un vocabulaire commun par rapport à ce que j'ai envie du projet. Et après, ça chemine. Et après, on s'y met vraiment. En effet, 25 novembre, et là, on est quasiment 8 semaines de répétition jusqu'au 26 février. Si je ne me trompe, alors on est ici, on va à Moggio, on va au théâtre dans les Vignes, dans l'Aude, travailler aussi. Et puis on est fait ensuite, on a plus de 15 jours de résidence ici pour terminer la création, où là tout se fait. C'est vraiment important ce que la proposition.
Mais c'est important en même temps ce que vous dites là, justement par rapport au temps. Il faut aussi, la création c'est du temps. C'est du temps, du mûrissement, et c'est comme pour l'agriculture, on sème et puis on travaille la terre, et puis à un moment donné ça fleurit.
Moi, je passe du temps, en effet, avec le scénographe, la costumière, voir un petit peu l'esthétique du projet. On peut pas faire n'importe quoi d'un point de vue scénographie, sur n'importe quelle scénographie. En l'occurrence, c'est des discussions. Juste avant de vous voir, là, j'ai été justement avec le scénographe au téléphone sur une remise en cause d'une discussion que nous avions la semaine dernière, parce que je viens de relire le texte. Est-ce que tu es sûr ?
C'est du temps et c'est du travail.
Il faut tout à fait.
Ça vient pas comme ça tout seul, parce qu'on est en train justement d'avoir le génie qui fleurit dans la tête.
C'est ça.
C'est voilà. Bien de le rappeler.
On peut peut-être citer les gens qui participent, en effet, à cette création perplexe. Pierre Heidorf,
scénographe. Très, je dis deux mots simplement pour dire, parce qu'en plus, il a été scénographe de Jacques Nichet, qui nous a quittés là en août dernier. C'était lui qui a été donc directeur des 13 ans, il y a quelques années, qui avait fait la scénographie de son projet au Palais des Papes, Tragédie du Croix Christophe. Voilà, je le cite parce que j'aime beaucoup travailler avec lui, je l'avais rencontré sur les Histrions.
Natacha Boulet-Reber à l'éclairage.
C'est ça.
Et puis bah, les comédiens, Anne-Sophie Lair, Marc Pastor, Evelyne Toroglosa et Thomas Trigeau. Ouais. Belle équipe.
Belle équipe.
France Del Plan, qu'on arrive un peu à la fin de cette émission. On a parlé d'un certain nombre de spectacles, mais la programmation est riche. Vous le disiez au début, hein, 26...
C'est pourquoi je ne me suis pas risqué à citer tous les spectacles.
Mais
je renvoie vers évidemment notre site et notre programme. J'espère que tout y est suffisamment bien expliqué. Peut-être préciser que le dernier spectacle sera aussi une création de Pierre Barrère, donc à la fois dans un autre genre, autour du cabaret de Valentin, ça va être aussi de Carl Valentin. Ça va être aussi ça s'appelle C'est ce soir ou jamais. Ça va être une très belle façon de finir la saison avec une création.
Donc de bien noter, oui, Isabelle Marsala, une remarque.
Ah non, j'appuie le discours de Monsieur Delplanque. Il faut se procurer le programme, autant le programme de l'année que celui de la petite scène. C'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement lisible, c'est très attractif, ça explique très bien, on comprend absolument l'ordre des choses. Je dis que c'est pas si fréquent. Moi, j'ai spécial satisfait à votre graphiste. Hein, je trouve que c'est un très très bon boulot. Et puis dire que ce théâtre, vous verrez dès que vous regarderez le programme, c'est vraiment de la haute qualité pour tous.
Perplexe, ça va se jouer le mercredi 26 février, 27 février et 28 février, ici au Théâtre Jean Villard à 20h. Et vous serez là, Isabelle. Tout ça.
Donc, venir voir les spectacles. Mais moi, je voudrais aussi dire une chose, c'est qu'il y a autour du Théâtre Jean Villard un environnement magnifique qu'on ne suppose pas. Il y a un parc, il y a des arbres, il y a la Mausson qui coule. La Mausson, c'est pas simplement un stade, c'est aussi une petite rivière.
C'est la rivière qui départage ici les Pyrénées des Alpes. Parce que vous savez peut-être pas que nous sommes dans les Alpes, assis là où nous sommes. Et de l'autre côté de la rivière, sur le golfe, nous sommes dans les Pyrénées. Donc je trouve quand même que ça mérite d'être souligné. On n'est pas n'importe où, on est sur le pli de Montpellier.
Je connaissais, moi, le Vidour comme séparation entre Languedoc et la Provence. Mais là, il y a une autre limite qui est extraordinaire. Et donc, on est véritablement là, sur le picat de la daille, comme on dit en occitan, sur la
c'est des histoires. C'est des histoires de territoire. En fait, je pense que travailler avec les artistes dans la culture, ça a du sens. Si on travaille sur des territoires, et le territoire n'est pas forcément un lieu d'enfermement, je ne parle pas de frontières, je parle de territoire au sens où des gens peuplent un paysage. Et c'est très très important. Dans toutes les œuvres artistiques, littéraires, plastiques, il y a cette histoire du rapport au monde. Et je crois qu'on essaye d'être l'écho du monde et qu'on essaye de vivre ici et maintenant. Et du coup, ici et maintenant, il y a encore la nature autour de nous. Bonne nouvelle.
Merci Franck Telplanc, merci Isabelle Marsala, merci à Nicolas Pichot et merci à Natiot.
Merci Bruno.
Et merci Pascal. Une bonne émission, merci à tous. J'espère que les auditeurs en apprendront plus sur le théâtre Jean Vidard. Et puis ça, peut-être ça va les attisser, ça leur donnera envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans cette maison, dans ces endroits fantastiques. Qu'ils y viennent, on les attend. Voilà, c'était un plateau radiophonique réalisé depuis le théâtre Jean Vilar à La Paillade à Montpellier avec l'Écho des Garrigues et Radio Languedoc dans le cadre de la convention Ville de Montpellier et l'ARA, Assemblée régionale des radios associatives. Mmh.